I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous. Très heureux de démarrer cette nouvelle semaine en votre compagnie. C'est Soir Info, comme tous les soirs, de 22h30 à minuit, sans aucune interruption, avec autour de la table ce soir nos habitués. D'abord, Karim Abric, évidemment, de la rédaction de CNews. Bonsoir, cher Karima. Heureux de vous retrouver, tout comme Yohann Uzaï.
Bonsoir, Julien.
Yohann Uzaï, du service politique de CNews. Bonsoir, Yohann. Autour de la table également, Philippe Guibert. Bonsoir, Philippe. Très heureux de vous avoir également, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Merci, Philippe. Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir, et bonsoir à Jean-Christophe Couvi, également secrétaire national de l'unité SGP Police.
On va y arriver,
comme vous dites. Une émission largement consacrée, évidemment, à cette menace terroriste, qu'elle soit en France ou en Russie, au cœur de notre émission, avec d'ailleurs donc ce plan Vigipirate en France, rehaussé à son niveau le plus élevé. Urgence attentat à la suite de l'attaque de Moscou, revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. On va très largement y revenir tout au long de cette émission. Mais d'abord, les suites de cette attaque sanglante de Moscou, sur laquelle on s'attarde bien sûr aussi. Les quatre auteurs présumés de cet attentat qui a fait au moins 137 morts ont été placés hier en détention provisoire après leur comparution devant un tribunal de la capitale. On vous montrera des images assez étonnantes qu'on n'a pas l'habitude de voir ici en France. On en discutera depuis Moscou en direct avec Igor Kourachenko dans une seconde. Bonsoir Igor, notre correspondant CNews à Moscou. Mais d'abord, je voudrais qu'on voit ce sujet, les derniers éléments, les dernières informations autour de cet attentat et de ces quatre présumés auteurs.
C'est un nouveau rebondissement, trois jours après l'attaque terroriste à Moscou. Trois nouveaux suspects ont été placés ce lundi en détention provisoire. Les assaillants présumés, eux, ont déjà été arrêtés. Enfermés dans une cage de verre, ils ont comparu hier, tous blessés. Trois d'entre eux ont plaidé coupables. Ils encourent la prison à perpétuité. Alors que les recherches dans les décombres se poursuivent, Vladimir Poutine a évoqué la piste ukrainienne démentie par Kiev et les Occidentaux. L'État islamique a pourtant revendiqué l'attaque, une revendication que Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, refuse de commenter.
L'enquête est en cours et l'administration présidentielle aurait tort de faire des commentaires sur son déroulement.
Pendant ce temps, près du Crocus City Hall, des habitants déposent des fleurs, des peluches ou des bougies, signe de l'émotion très vive dans le pays.
Igor Kourachenko, bonsoir donc, et merci d'être avec nous, correspondant à Moscou pour CNews, journée de deuil national hier en Russie. On a vu donc dans ce sujet, on va les revoir, ces images des quatre auteurs présumés à leur arrivée au tribunal. Quel est l'état d'esprit de la population sur place à Moscou?
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez bien qu'hier c'était une journée de deuil en Russie, mais aujourd'hui c'est une journée de travail. Donc on a l'impression que les Russes se remettent un tout petit peu de cette tragédie, mais il y a toujours ce sentiment de douleur, le sentiment de choc qui domine l'état d'esprit des Russes. On a vu beaucoup de citoyens russes qui se sont rendus vers le lieu de cette tragédie afin de déposer les fleurs en commémorant les victimes de cette tragédie, donc sur le lieu de cette tragédie, justement face à cette salle de concert en Crocus Hall. Il y avait plusieurs célébrités qui sont venues sur place. Il y avait d'ailleurs ce jeune garçon de 15 ans qui travaillait au vestiaire et qui a sauvé donc une centaine de vies et qui lui aussi était sur place en déposant les fleurs. D'ailleurs, avant hier, on était dans l'un des centres de don de sang et on a vu des centaines de personnes qui sont venues afin de donner leur sang, effectivement, afin d'aider les blessés dans cette tragédie. On voit une véritable mobilisation du peuple russe et bien évidemment, cet attentat reste pour l'instant le sujet numéro un dans les actualités. On entend les gens parler de ça dans les magasins, dans le transport en commun, donc un tout petit peu partout. Dans les espaces publics. Ce n'est pas d'ailleurs étonnant, sachant que le bilan de cette tragédie s'élève à 139 morts, selon les toutes dernières informations reçues par le président du comité d'enquête de la Fédération de Russie dans son rapport au président russe, dont trois enfants. 75 corps ont été reconnus déjà. Donc on peut affirmer d'ores et déjà que cette attaque a déjà dépassé par le nombre de victimes, par exemple celle en 2002, on peut dire, donc dans le théâtre Dubrovka, qui cède la place justement à la prise d'otage dans la ville de Beslan en 2004. Mais je tiens à vous dire que les services d'urgence travaillent toujours sur place, donc l'opération de secours va se poursuivre jusque demain soir, selon la déclaration du gouverneur de la région de Moscou qui s'est rendu sur place et qui a vu l'ampleur de cette tragédie.
Vous restez un instant avec nous si vous le voulez bien, Igor, juste le temps qu'on entende quelques moscovites interrogés sur place et je vous donnerai une dernière fois la parole.
C'est une tragédie personnelle pour moi. Je n'ai pas pu dormir pendant deux nuits. Ma mère et mon enfant allaient dans la région de Moscou et je ne pouvais pas dormir. Je ne me suis endormie que le matin, tellement je tremblais. C'est une tragédie pour la Russie.
C'est triste, horrible et dégoûtant ce qui s'est passé. J'ai décidé de soutenir les gens et je suis venu ici.
Nous avons l'impression que le malheur s'est abattu sur notre maison, sur notre pays. C'est le moins que nous puissions faire pour montrer notre soutien, pour exprimer nos condoléances aux familles des victimes. Tant d'enfants se retrouvent sans parents, sans père, sans mère. J'ai tellement de peine pour ces gens.
Et puis Igor, juste un mot rapide sur Vladimir Poutine, parce que le Kremlin refuse toujours de commenter réellement la revendication de l'État islamique et reste totalement obsédé par la supposée main de l'Ukraine sur cette attaque. Hein.
On a tout à l'heure entendu l'allocution du président russe qui a dit entre autres que cette attaque terroriste a été perpétrée par les islamistes radicaux. Mais les questions principales restent toujours la même. Qui était derrière toutes ces personnes? Vladimir Poutine a dit notamment que les États-Unis cherchaient activement à convaincre ses partenaires qu'il n'y a pas de traces ukrainiennes dans cette affaire. Il a attiré l'attention particulière de ses interlocuteurs sur le fait que ces détenus, ces tireurs, ont été arrêtés dans la région de Bryansk, une région frontalière avec l'Ukraine. Mais donc, comme il a dit, l'enquête va montrer les faits prochainement.
Merci beaucoup Igor Korashenko, correspondant CNews à Moscou, pour ces précisions. Vladimir Poutine qui s'est exprimé donc aujourd'hui, écoutez-le.
Nous savons que ce crime a été commis par des islamistes radicaux dont l'idéologie est combattue par le monde islamique lui-même depuis des siècles. Bien entendu, il est important de répondre à la question de savoir pourquoi les terroristes, après leurs crimes, ont essayé de partir en Ukraine. Qui les attendait là-bas ?
Jean-Sébastien Ferjou, on entame un tour de table ensemble avant de recevoir par vidéo Claude Moniquet qui nous apportera également son expertise. L'Ukraine n'est jamais directement mise en cause, mais les sous-entendus de Vladimir Poutine sont quand même assez clairs. Il y a une réelle obsession du maître du Kremlin de mettre cette attaque terroriste dramatique sur le compte donc du pouvoir ukrainien.
Oui, même si Vladimir Poutine effectivement a pour la première fois reconnu qu'il s'agissait d'un acte revendiqué par l'État
tout en continuant de dire qu'il se réfugiait vers l'Ukraine.
Bien sûr, en pointant du doigt la fuite. Après, c'est vrai que la mise en scène, en quelque sorte, de leur arrestation indique à minima, de toute façon, que le Kremlin entend instrumentaliser politiquement cet épisode qui fragilise beaucoup de la rhétorique de Vladimir Poutine jusqu'à présent, qui a expliqué aux Russes qu'ils avaient un seul ennemi, qui étaient soit les Ukrainiens ou les nazis en Ukraine, soit les Occidentaux, et qui par ailleurs promettaient aux Russes, ça fait partie du contrat social russe, finalement la sécurité au quotidien. Mais là, on a vu, en tout cas, si l'hypothèse se confirme de cette piste islamiste, n'était pas capable, quel que soit le degré de policiarisation, en quelque sorte, du régime, d'assurer la sécurité des Russes. Et au-delà de ça, ça montre quelque chose d'autre, me semble-t-il, parce que les Tadjiks qui ont été arrêtés sont des gens qui vivaient en Russie, pas des gens qui viennent du Tadjikistan. Et c'est très important, parce que ça montre qu'il y a une radicalisation qui se fait en Russie aussi. Et donc le pacte passé entre Vladimir Poutine et les Tchétchènes notamment, avec le président tchétchène, ne fonctionne pas. Il ne parvient pas à empêcher l'émergence d'un islam radical sur le sol russes, puisque ce sont des immigrés en quelque sorte. Et le fait qu'ils soient isolés, ils n'ont pas été radicalisés, semble-t-il, en Asie centrale, parce que l'Asie centrale, il faut le rappeler, le Kirghizistan ou le Tadjikistan sont des pays qui sont très durs contre l'islam radical, même s'ils ont pu être contaminés par le biais de la frontière afghane, sont des pays, vous savez, jusqu'il n'y a pas si longtemps, il était interdit, enfin, le port même de la barbe était interdit. Donc, ce ne sont pas des pays qui sont, complaisants avec l'islamisme.
Cette thèse ukrainienne n'est alimentée, en tout cas pour le moment, bien sûr, par absolument aucune preuve, Karima, et on se demande pourquoi Vladimir Poutine s'enferre à ce point.
Ben en fait, le contexte, c'est la guerre effectivement qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc, évidemment, l'instrumentalisation, ça va de soi. Parce que, bon, pour rebondir sur ce que disait Jean-Sébastien, la Russie a été la cible des islamistes depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs attentats en Russie au cours des dernières années. Il y avait eu, rappelez-vous aussi, en 2002, cette fameuse prise d'otage
ouais, Igor vient de nous le rappeler.
Des radicaux, exactement. Et il y en a eu d'autres dans le métro. Voilà, dans le métro également. Donc, la Russie est la cible des islamistes pour différentes raisons. On sait que la Russie est allée, bon, avec les guerres en Tchétchénie, l'implication aussi de la Russie quand elle est allée en Syrie. Donc, il y a cette cible, mais la différence, pour répondre à votre question, c'est que le contexte est d'une guerre en ce moment. Et oui, pour Vladimir Poutine, d'ailleurs, d'avoir attendu, hein, parce qu'il y a eu un certain délai. Finalement, bon, les Occidentaux ont véritablement pointé du doigt l'État islamique. Lui parle d'islamistes radicaux et il va essayer de quand même de trouver certains éléments pour quand même dire, ben il y a une potentialité que ce soit nos ennemis. Hein. Lui, il parlait dans sa rhétorique de propagande, rappelez-vous, les néo-nazis qui veulent nous encercler. Maintenant, il y a les islamistes. Mais qui a commandé cet attentat? Est-ce qu'il y aurait pas... Et est-ce que finalement, il y a des alliés? Est-ce qu'il y en a d'autres
pourtant,
qui voudraient
les faits sont là, les revendications sont là.
Mais de notre point
de vue, il y a une forme de déni total de la part de Vladimir Poutine.
Ben, c'est pas juste un déni. Je pense qu'à un moment donné, il veut reprendre le contrôle aussi de l'information. C'est comme ça que ça se passe. On est en temps de guerre, même si lui parle de cette offensive. Et ça va être de rediriger le discours pour ne pas montrer aussi la défaite ou enfin la question des services de sécurité. Parce qu'il y a encore plusieurs questions. Après, il y a toutes sortes de théories, bien sûr, du complot qui peuvent embarquer. Mais il y a quand même plusieurs questions de sécurité qui se posent. Comment se fait-il que ça s'est produit? La durée, en tout cas, on pourra en parler
longuement. On va largement revenir là-dessus. Je voudrais introduire dans notre conversation Claude Monnier. Avant de poursuivre ce tour de table avec les uns et les autres, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement. Bonsoir Claude, merci d'être avec nous. Bonsoir. On est vraiment sur cette thèse là qui est alimentée ces dernières heures par Vladimir Poutine, tel, j'ai envie de dire, l'ancien espion du KGB qu'il a été. Il a cette idée d'utiliser cette affaire à son profit, la manipuler d'une certaine façon pour alimenter la guerre avec l'Ukraine. Est-ce que c'est la lecture que vous en faites?
Alors, je pense qu'il n'a pas vraiment le choix parce qu'il a été réélu la semaine dernière. Il avait fait toute son élection, toute sa campagne, si on peut dire qu'il y a eu une campagne, sur le fait qu'il était le protecteur de la Russie, l'homme qui allait défendre, qui défendait tous les Russes et qui était le seul à pouvoir le faire. Et puis, deux jours plus tard, on a 150 morts à Moscou. Donc, c'est un terrible échec pour lui. Il faut bien qu'il trouve une porte de sortie. Et effectivement, on comprend bien que pendant les trois derniers jours, il hésitait. Et puis, il a fini. Alors, je dirais la moitié du chemin est faite. Il a reconnu que les auteurs de l'attentat étaient des islamistes radicaux. Et il continue effectivement sur son obsession à sous-entendre que ce sont les Ukrainiens qui auraient pu commanditer cet attentat. Il met tout ça conditionnel. Hein. Il dit il faut enquêter, il faut voir, on attend des précisions, etc. Donc j'ai l'impression qu'il pourrait encore même se ménager une porte de sortie parce que quand même sa thèse ne tient pas debout. Quand il nous dit le seul élément qu'il a, et c'est un élément sur lequel on est obligé de croire les Russes sur parole, c'est que ces terroristes ont été arrêtés à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne et, dit le Kremlin, les Ukrainiens avaient peut-être préparé un créneau de passage à la frontière. D'accord, possible. Je n'y crois pas, mais c'est possible. Mais comment ces terroristes auraient-ils passé les 5, 6 ou 7 lignes de défense russes et les postes de contrôle russes avant d'aboutir en zone ukrainienne?
Claude, vous évoquez cette façon presque inévitable pour Vladimir Poutine de manipuler cette thèse ukrainienne, mais il y aurait peut-être quand même une alternative pour le chef du Kremlin, ce serait de saisir l'opportunité justement de réintégrer un peu le concert des nations, être pris comme un partenaire dans la lutte antiterroriste. Est-ce qu'il est en train de commettre une erreur diplomatique?
Ah ben écoutez, c'est ce que je dis depuis deux jours. Je pense qu'effectivement, vous avez raison. Il a une occasion Alors, on ne lui pardonnera pas l'Ukraine, ça restera très tendu, mais il a une occasion avec cet attentat de saisir la main tendue à la fois pour Washington et pour Paris, qui disent tous les deux, nous avons un ennemi commun. Et ça pourrait lui faire réintégrer effectivement le concert des nations. Le problème de Vladimir Poutine, c'est que c'est une personnalité psychiquement complexe, paranoïaque certainement, et puis KGBiste un jour, KGBiste toujours.
N'est-ce pas ?
Il y a une habitude de la manipulation, une habitude du mensonge dont il a vraiment, même humainement, lui-même, psychologiquement, dont il a du mal à se défendre, à se séparer, à se défaire, au-delà même des calculs politiques.
Claude Moniquet, si vous le voulez bien, vous restez quelques minutes avec nous. Vous intervenez comme nos autres débatteurs dès que vous en avez envie. Écoutez Emmanuel Macron depuis la Guyane qui a évoqué cet attentat en Russie, à Moscou, et qui passe ce message, se garder, dit-il, de toute instrumentalisation. Il évoque bien sûr la thèse ukrainienne validée pour le moment par Vladimir Poutine.
Nous avons proposé aux services russes, comme nos partenaires de la région, une coopération accrue. Notre souhait est évidemment qu'on puisse retrouver le plus rapidement possible les coupables et que nous continuions de lutter efficacement contre ces groupes qui se projettent dans plusieurs pays. On le voit bien, la Russie, il y a quelques mois en Turquie, ils ont tenté la France un peu avant. Et je pense qu'en la matière, il faut se garder de toute instrumentalisation ou déformation, mais être exigeant et efficace. C'est dans cet esprit-là que nous avançons et j'espère que la Russie fera de même. Et il faut se garder de toute instrumentalisation. Et je pense que ce serait à la fois cynique et contre-productif pour la Russie elle-même et la sécurité de ses ressortissants d'utiliser ce contexte pour essayer de le retourner contre l'Ukraine.
La Russie, Philippe Guibert, qui fait partie de ces pays comme la France, qui sont en conflit ouvert avec l'État islamique. Mais on le disait encore une fois, Vladimir Poutine conserve ce choix, sa logique impérialiste en fait. C'est sa matrice qui ne bouge pas d'un fil.
Il est dans une logique de guerre et donc il reste dans sa logique de guerre. Je trouve le spectacle...
Franchement, l'argument de l'Ukraine qui aurait fomenté tout ça, c'est absurde.
Le spectacle de ce pouvoir poutinien depuis 3 jours me fait froid dans le dos, honnêtement. L'attentat
oui, j'allais le dire.
Fait évidemment froid dans le dos et est horrible et mérite notre solidarité avec le peuple russe. Mais ce pouvoir poutinien est terrifiant, je trouve. 3 jours de déni avec une demi-vérité acceptée ce soir, mais sans qu'il cite, sauf erreur de ma part, l'État islamique, non. C'est-à-dire l'organisation qui a revendiqué par les voies les plus officielles.
Je crois qu'il évoque l'islamisme radical, mais pas l'organisation État islamique. Vous avez raison.
Voilà. Et donc, il ne va pas jusqu'au bout de la reconnaissance de l'évidence. C'est-à-dire qu'on a l'État islamique qui a revendiqué dès vendredi soir, 2 heures, 3 heures après cet attentat monstrueux. Il l'a revendiqué. Et donc, 3 jours pour admettre un commencement de vérité. 3 jours de déclaration jusqu'au niveau de Poutine, mais avec d'autres autorités qui avant ont pointé l'Ukraine de façon extrêmement belliciste. On voit bien dans quel but. Et puis quand même, moi, ce qui m'a profondément choqué, c'est les auteurs de l'attentat, qui sont des monstres, hein, n'ayons pas de... mais qui ont été torturés et qu'on montre à la population.
Et on voit ces images, et on va les remettre parce qu'on a changé d'illustration.
Mais profondément choqué par ça.
Voilà, c'est ces images que, d'ailleurs, on les a évidemment floutées parce que c'est normal de flouter les visages de ces hommes qui sont présumés innocents, hein, j'ai du mal à le dire, mais c'est comme ça.
Le problème. Ils sont présumés coupables,
on n'a pas à les montrer entravés. Mais sur les réseaux sociaux, ces images sont enfloutées et chacun a pu les voir. On voit des hommes hébétés, visiblement en effet torturés. On sait qu'il y en a un donc qui a eu l'oreille coupée, je crois. Un autre la paupière arrachée. Également celui qui a eu l'oreille coupée, on lui a fait manger son oreille. Après, si ce sont les... Enfin, la question c'est... Est-ce que ces images rassurent, font du bien à la population russe aussi?
Moi, je ne suis pas sûr. Attendez, je veux juste terminer. Parce que,
allez-y, pardon.
Je trouve que depuis 4 jours, on voit ce qu'est une démocratie. Elle a tous ses défauts, a vraiment plein de défauts. Et puis, ce que c'est qu'un régime qui est plus qu'autoritaire. Voilà. On joue avec la vérité, c'est-à-dire qu'on ne dit jamais la vérité.
C'est-à-dire que les infos sur l'enquête, on ne les aura peut-être jamais.
On est capable de torturer des prisonniers fussent-ils coupables ? Évidemment qu'ils sont coupables. Et donc, moi j'ai eu cette réaction, mais qui est peut-être personnelle. Je me suis dit, on a plein de défauts, on a plein de faiblesses dans nos démocraties, mais je suis quand même très très fier de vivre dans une démocratie, parce que j'ai trouvé ça écœurant, le spectacle du pouvoir poutinien, après la tragédie qu'ont subi les moscovites vendredi soir.
Yoann, je vous laisse répondre. Je voudrais juste alimenter notre débat avec cette citation dans les colonnes du Parisien de Jean-Christophe Brizard, que l'on connaît, spécialiste des mouvements terroristes, et qui parle de ces arrestations. Il dit « Ces arrestations posent question. On peut s'interroger sur une potentielle manipulation. Les suspects présentés... Voilà. » Je vais aller au bout. « Les suspects présentés ne sont pas ceux initialement mentionnés sur les mandats de recherche. Surtout d'un point de vue opérationnel, il s'agit d'un attentat réussi, perpétré par des hommes entraînés. Je ne les vois pas se laisser interpeller aussi facilement, tout cela paraît surprenant. » C'est pas monsieur Lambda qui s'exprime, c'est un grand spécialiste des mouvements terroristes.
Oui, c'est précisément ce que j'allais dire.
On aimerait être sûr que ces quatre hommes sont les assaillants de vendredi.
Non, on ne l'est pas.
Personne ne l'est.
Et pour le coup, c'est là que j'allais dire, j'ai beaucoup de désaccords avec ce que vient de dire Philippe Guibert en réalité, parce que vous dites évidemment qu'ils sont coupables. Non, soyons très prudents, ils sont plus que jamais présumés innocents. Mmh. Parce qu'effectivement, la mise en scène même de leur arrestation est troublante. Le fait qu'ils soient arrêtés si rapidement, alors qu'on sait quand même bien effectivement que des terroristes islamistes généralement vont souvent au bout de ce qu'ils ont commencé et se font interpeller seulement par erreur, entre guillemets, l'a interpellé.
Ils préfèrent mourir que d'être interpellé.
Exactement, interpeller quatre assaillants, c'est-à-dire la quasi-totalité de ceux qui ont participé à l'attentat, mentir sur l'endroit où ils ont été arrêtés, parce qu'ils n'ont évidemment pas été arrêtés à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne, c'est impossible. Donc tous ces éléments-là interrogent évidemment sur le fait de savoir qui
mais vous
sont réellement
mon point,
ces personnes.
Parce que mon point, c'était un pouvoir qui ment de façon permanente.
Naturellement.
Et qui ment
capable, de façon permanente.
Non seulement qui n'est pas capable d'assurer la sécurité, mais en plus qui est incapable de dire la vérité.
C'est simplement parce que vous avez dit évidemment qu'ils sont coupables. C'est, voilà,
donc, d'accord, je retire.
Je voulais revenir là-dessus. Un autre désaccord aussi sur le terme déni qui a été utilisé plusieurs fois. Vladimir Poutine est dans
le déni.
C'est
moi qui ai utilisé ce terme de déni.
Il n'est pas dans le déni, Vladimir Poutine.
Il est dans la manipulation.
Être dans le déni, ça veut dire refuser de voir la vérité. Or, lui connaît parfaitement la vérité. Il sait parfaitement qui est à l'origine de cet attentat. Il sait parfaitement que les Ukrainiens n'ont rien à voir là-dedans. Il sait parfaitement que ces quatre personnes n'ont pas été interpellées à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Donc, il se sert de cela, comme le disait Claude Moniquet, pour essayer de trouver une porte de sortie, pour cacher ses propres échecs concernant la sécurité promise au peuple russe. Et il se sert de cela également aussi, peut-être, on le verra dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, pour renforcer l'offensive en Ukraine. Ça peut lui permettre de dire, puisque ces attentats ont été organisés de manière directe ou indirecte par l'Ukraine, nous allons renforcer nos attaques et nous allons éventuellement, pourquoi pas, utiliser des armes encore plus puissantes. Ça peut servir de justification auprès de la communauté internationale. Donc c'est pour cela qu'il faut évidemment être extrêmement prudent.
Il faut être prudent, c'est ce qu'a voulu rappeler le chef de l'État. D'ailleurs, aujourd'hui, Florian Tardif est avec nous. Vous suivez, Florian, le déplacement d'Emmanuel Macron qu'on va entendre dans une seconde, juste après avoir justement pris connaissance un petit peu de ce déplacement avec vous. Emmanuel Macron qu'on a entendu, qui a averti d'une certaine manière Vladimir Poutine en disant il faut se garder de toute instrumentalisation. Il a rappelé, et on va y revenir ensemble sur ce plateau, sur cette vigilance attentat qui était désormais à son point le plus haut chez nous en France de nouveau. Emmanuel Macron qui a pris la parole. On va peut-être voir juste l'image avant de diffuser le son avec nos amis en régie. Je voulais qu'on voit l'image parce qu'il a pris la parole pour s'exprimer face à la presse vraiment dès son entrée, dès sa descente sur le tarmac tout à l'heure en Guyane. Un ton qu'on va entendre très grave, très solennel. Je vais être un petit peu provocateur, Florian, mais on a presque la sensation qu'Emmanuel Macron dramatise un petit peu la situation franco-française après l'attentat à Moscou. Et c'est la sensation des journalistes également sur place.
Non, c'est pas vraiment la sensation qu'on a pu avoir sur place. On savait qu'Emmanuel Macron allait s'exprimer très certainement à la descente de son avion, tout simplement parce que la parole présidentielle était attendue après l'organisation de ce conseil de défense exceptionnel, donc qui s'est tenu hier soir. Mais j'ai pu échanger avec certains de mes collègues qui étaient présents ce matin sur le tarmac de l'aéroport d'ailleurs où je me trouve, puisque on revient d'un déplacement un peu plus tôt dans l'après-midi dans la forêt guyanaise, et on n'a pas trouvé le président de la République ayant un air plus grave que d'habitude. En revanche, peut-être pour vous répondre plus précisément, on a trouvé qu'il était très précis ce matin, presque chirurgical dans sa parole, tout simplement parce que il a dû très certainement hier soir avoir un compte rendu très précis par les renseignements. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre ce matin lorsqu'il s'est exprimé de la situation. Et ce qu'il a rappelé néanmoins, d'un air peut-être un tout petit peu plus grave, c'est que la menace était constante. On l'avait peut-être oublié ces dernières années. C'est ce que rappelle finalement l'exécutif via ses différentes prises de parole, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, ou il y a quelques heures, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. C'est de rappeler que même s'il n'y a pas d'attentats quotidiennement sur le territoire national, des tentatives d'attentats, il y en a. Elles sont nombreuses, quasiment tous les deux mois, a rappelé Gérald Darmanin. Donc c'est peut-être plus sur ce point-là qu'Emmanuel Macron a insisté ce matin.
Vous, Florian Tardif, on vous libère parce que je crois que le convoi présidentiel n'attend plus que vous pour un petit déplacement de fin de journée. Merci cher Florian, et on vous retrouvera donc je crois qu'à partir de demain matin pour décrypter un petit peu ce déplacement présidentiel en Guyane. C'est intéressant de faire le parallèle entre les mots d'Emmanuel Macron, ce plan Vigipirate, et je le disais, on va décrypter tout ça en longueur dans un instant, et la situation en Russie, ces images de ces quatre supposés assaillants torturés, visiblement particulièrement éprouvé, puis ces informations qu'on a au compte-gouttes, on se rend compte de la différence de traitement du terrorisme et des potentiels terroristes, que ce soit dans un pays comme la Russie, totalitaire, et dans une démocratie comme la nôtre.
Bah oui, je reprends les mots de Nietzsche qui disait, quand on lutte contre les monstres, il faut prendre garde de ne pas devenir un monstre soi-même. Voilà, c'est toute la différence entre la démocratie et la Russie, qui n'en est pas une, même s'il a été élu soi-disant par le peuple. Après, Poutine, c'est un joueur d'échecs aussi. Hein. C'est quelqu'un qui, on le voit bien, il réfléchit, il panique pas, il parle pas vite. Tous ses mots sont pesés. Il est dans une situation un peu compliquée aussi. Il veut pas être coincé dans un coin du ring. C'est pour ça, nous, ce qui nous a frappé, policiers, c'est le temps d'intervention des forces spéciales dans ce
théâtre. Mail, hein.
Voilà. Nous, depuis 2015, effectivement, on a revu le plan national d'intervention. On doit intervenir en moins de 30 minutes. Et là, ça a mis plus d'une heure. Alors, pour un pays soi-disant...
Peut-être que le fait que le toit soit en feu et que les périmètres ne soient pas sécurisés a peut-être changé.
Ouais, je suis d'accord, mais enfin, il y a quand même des choses. Nous, je sais que les collègues voilà, de nos forces spéciales de police trouvent aussi bizarre le temps d'intervention.
Et quelle interprétation vous en faites? Que volontairement, on a voulu tarder?
Soit ils ne sont pas prêts. Et contrairement à ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est hyper sécurisé, et en fait, en intérieur, on met toutes les forces à l'extérieur, mais pas du tout à l'intérieur. Ouais. Soit, effectivement, on a beau mettre des policiers, mais s'il n'y a pas de motivation et d'équipement, on a vu récemment que la garde nationale russe n'était même pas équipée de blindés. Et rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, quand il y avait une mini-révolte sur le front ukrainien, ils étaient incapables d'arrêter les colonnes. Surtout, c'est encore une fois, on nous sert un roman, un scénario, qui, effectivement, va servir le régime. Où on a quatre mecs interpellés, alors ils sont hébétés, drogués, on voit, ils savent même plus où ils habitent, et en fait c'est effectivement des suspects voilà, qu'on sert comme ça à la vindicte populaire. Donc on sait très bien, nous, que pour faire parler des gens, alors oui, effectivement...
Oui, c'est sûr que torturant quelqu'un, on peut lui faire dire ce qu'on veut.
Oui, voilà. Et vous pouvez faire signer en bas de la page, terminé. D'ailleurs, il ne s'exprime même pas. J'ai pas entendu un mot. Et effectivement, quand on va chasser des terroristes, des fous de Dieu... Personnellement, j'ai jamais vu des fous de Dieu se laisser capturer comme ça, tranquillement, dans la forêt, sans armes ni rien. Donc on voit qu'il y a tout un montage derrière, effectivement, une manipulation. Après, on n'oublie pas que Poutine vient du FSB, donc en manipulation, il s'y connaît. Quoi.
N'est-ce pas? Le dernier mot avant de donner le mot de la fin à Claude Moniquet.
Monsieur Couvry, parce que souvenez-vous toutes les polémiques qu'il y a eu sur le Bataclan, sur le temps de réaction. Là encore, différence entre une démocratie et un régime autoritaire. Finalement, les gens qui ont voulu s'informer ont compris qu'il y avait des policiers de la BAC qui étaient intervenus au bout d'une vingtaine de minutes, ou si c'est pas un quart d'heure. Mais en France, on a eu cette polémique-là sur le temps d'intervention de nos forces de l'ordre. En Russie, il n'y aura pas de polémique là-dessus, alors même que je suis d'accord avec vous, plus d'une heure pour intervenir, c'est quand même...
Enfin, si certains le pensent, ils ne le diront pas, en tout cas.
Ou ils le diront sur Telegram.
Ils le diront,
ou ils le diront sur des chats, oui, sur des messageries cryptées. Claude Moniquet, on était en Guyane avec Florian Tardif il y a un instant. On a compris et on va dérouler cette actualité jusqu'à la fin de l'émission. Cette menace terroriste à son plus haut niveau en France. Le chef de l'État qui l'a rappelé depuis la Guyane. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que le président de la République ne dramatise-t-il pas la situation? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que cette attaque de vendredi en Russie qui nous font réagir de cette façon? Quelle est votre opinion là-dessus?
Alors, je vais vous répondre, mais si vous le permettez, je voudrais commenter deux mots sur Poutine. Je connais bien Poutine. J'étais en Russie, je travaillais beaucoup en Russie à l'époque où il est arrivé au pouvoir en 2000. J'ai vu son régime monter en puissance. Il n'y a rien d'étonnant dans ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, Poutine, ex-KGBiste, a mis sur pied un régime autoritaire. Mais c'est un produit de la Russie, un produit du KGB, c'est aussi un produit de nos lâchetés. Nous avons été très contents quand il a stabilisé la Russie, qui avait été déstabilisée par Boris Yeltsin, et une aventure démocratique qui était malmenée. En 2014, Poutine, annexe la Crimée, mais en mai 2017, il est reçu à Versailles et le premier invité officiel du président Macron. Nous avons aussi participé à fabriquer Vladimir Poutine. On ne peut pas s'abstraire de cette responsabilité. Sur ce qui a été déclaré sur la menace terroriste, non. Il y a clairement des indications qui montrent que l'EIK est active en Europe, est active. D'ailleurs, il y a eu des arrestations en Allemagne la semaine dernière de deux de ses membres.
Pardon, je vous coupe, Claude, pour que vraiment la compréhension soit totale pour nos téléspectateurs. L'EIK, c'est la branche afghane de l'État islamiste.
Absolument. C'est l'État islamique Khorasan, qui est donc la branche de l'État islamique qui a commis l'attentat de vendredi soir et qui est aujourd'hui la branche, sans doute, une des branches les plus actives de l'État islamique et en tout cas celle qui arrive à faire une projection extérieure, ce que les autres n'arrivent pas à faire. Et l'EIK, l'État islamique au Khorasan, est présent en Europe, a des cellules en Europe, a des sympathisants en Europe, sous couvert de faux réfugiés tchétchènes ou ingouches, sous couvert, mais il y en a beaucoup moins, de quelques sympathisants centra-asiatiques, mais étant aussi une partie de l'État islamique, il peut pêcher, si je peux dire, recruter bien au-delà de ce cercle culturel, ethnique, originaire de l'ex-Union soviétique. L'EIK est tout à fait capable de susciter le passage à l'acte de terroristes qui n'ont rien à voir avec les origines russes, avec l'islam de Russie ou d'Asie centrale, y compris des convertis en France, en Allemagne ou ailleurs. Donc effectivement, il y a une vraie menace réelle et je pense qu'il était temps de s'en rendre compte et de commencer à prendre des mesures qui s'imposent.
Et c'est le jour 1 donc de ce nouveau niveau au plus haut donc antiterroriste en France, avec les déclarations du chef de l'État qu'on entendra, le déplacement du Premier ministre, Gérald Darmanin qui était aux 20h de France 2 également, on l'entendra dans un instant. Merci beaucoup Claude Moniquet. On poursuit donc notre thématique sur cette urgence attentat au niveau le plus élevé dans une poignée de secondes. Il est 23h pile, on accueille de nouveau Maureen Vidal pour l'essentiel de l'actualité. À tout de suite.
Ces opérations PlaceNet XXL menées dans plusieurs villes de France. Le ministre de l'Intérieur a annoncé 496 interpellations. Après Marseille, 4 nouvelles opérations sont en cours dans le Nord, en région parisienne, dans l'agglomération lyonnaise et à Dijon. Gérald Darmanin s'est rendu à Roubaix ce matin aux côtés des forces de l'ordre. Emmanuel Macron est arrivé ce lundi matin pour une visite de 2 jours en Guyane, un département français confronté à une forte insécurité avec une criminalité qui a atteint un niveau record en 2023. Sur place, le chef de l'État s'est exprimé sur la menace terroriste en France et a évoqué une coopération accrue avec la Russie. Enfin, la justice a ouvert une enquête sur un enfant de 8 ans venu à l'école avec 2 couteaux. Il est soupçonné d'avoir proféré des menaces de mort contre sa maîtresse et des policiers, a annoncé le parquet de Saint-Étienne. L'enquête est ouverte pour menaces de mort, port d'armes et introduction d'armes dans une enceinte scolaire.
La menace terroriste, merci beaucoup Maureen. La menace terroriste à son plus haut niveau en France après l'attentat de Moscou. Le président Macron a donc réuni un conseil de défense hier, a rappelé que la branche armée de l'État islamique qui a sévi en Russie avait tenté aussi de frapper la France à plusieurs reprises. C'était sur le tarmac lors de son arrivée en Guyane tout à l'heure. Emmanuel Macron.
Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de Vigipirate. Vous vous souvenez que nous l'avions réduite en début d'année. Elle avait été elle-même haussée après les attentats d'Arras. Donc c'est une mesure qui est cohérente compte tenu de la revendication de cet attentat et du fait que ce groupe a plusieurs fois tenté de toucher le sol français.
Et Yohann Uzaï, donc en à peine 24 heures, tout est allé très vite avec cette nouvelle urgence attentat autour du chef de l'État hier.
Oui, puisqu'avant de s'envoler pour la Guyane, effectivement, Emmanuel Macron avait convoqué dimanche soir un conseil de défense à l'Élysée. Depuis le début de l'année, deux projets d'attentat ont été déjoués en France. C'est ce qu'a annoncé cette fois le Premier ministre Gabriel Attal. Une personne a été interpellée le 10 janvier pour un projet contre des cibles juives ou une boîte de nuit LGBT. Puis le 5 mars, un sexagénaire a été arrêté. Il prépare cette fois une action violente contre des édifices religieux chrétiens. Presque tous les mois, les services de renseignement empêchent des attentats dans notre pays. Gérald Darmanin, dont la sécurité était déjà une préoccupation majeure en vue des Jeux Olympiques, a garanti que la police, la gendarmerie et les renseignements français seraient prêts à la fin du mois de juillet pour relever ce défi. Le Premier ministre Gabriel Attal, lui, s'est rendu en début d'après-midi à la gare Saint-Lazare à Paris pour saluer les forces de l'ordre, dont les militaires de la force Sentinelle, des militaires qui seront plus nombreux à être déployés sur le terrain. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre.
La menace est sérieuse. La sécurité des Français, évidemment, passe avant tout. Aussi, nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé, c'est-à-dire urgence attentat. Concrètement, cela veut dire que nous allons nous démultiplier encore davantage. Ça veut dire que nous prenons toutes les précautions. Depuis ce matin et dans les heures qui viennent, nous allons déployer des moyens exceptionnels partout sur le territoire. La présence policière sera renforcée sur les lieux sensibles, devant tous les lieux sensibles, notamment évidemment les écoles. Il y a aujourd'hui 3000 militaires de Sentinelle qui sont déployés partout sur le territoire. Je vous annonce que 4000 militaires supplémentaires sont désormais en alerte et mobilisables partout sur le terrain.
Enfin, sachez qu'à la demande de Gabriel Attal, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale a convoqué ce matin une réunion qui a associé l'ensemble des services de sécurité. Et puis la Direction générale de la Sécurité intérieure, la DGSI, réunira jeudi matin l'ensemble des acteurs du renseignement pour tirer toutes les conséquences de l'attentat de Moscou.
La France est en urgence attente à écouter ce qu'en pensent les Français, justement, interrogés aujourd'hui.
Je ne connais pas la sécurité à Moscou, mais je sais au moins que la France... C'est protégé, donc j'espère qu'il n'y aura pas ce genre d'attentat chez nous, en tout cas.
C'est pas aujourd'hui, c'est arrivé à Moscou que seulement aujourd'hui qu'on a peur. Non, on avait peur il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il faut aller combattre ces terroristes, tout simplement.
On ne peut pas ne pas y penser, même si on continue à vivre normalement et on essaye de faire fi de ce problème. Mais voilà, il existe et on le sait.
Ça rappelle le Bataclan, forcément, et les 6 soirs-là de novembre 2015. Donc oui, forcément, ça fait écho dans nos têtes et on ne peut ne pas y penser. C'est assez difficile.
On ne sait jamais ce qui peut arriver, on en a déjà eu. Et c'est vrai que le climat de tension actuellement pourrait contribuer à ça, je pense.
Christophe Couvi, cette menace nous rappelle que le premier danger reste le terrorisme islamiste, alors que nous étions occupés, j'ai envie de dire, avec la guerre en Ukraine.
Oui, enfin nous, policiers, on l'a à l'idée, parce que dans le dos, on a une cible.
Ce qui s'est passé à Moscou nous met en garde peut-être sur la reconstitution de cette force de frappe qu'est l'État islamique. Qu'en Europe, la France est la cible de cette organisation.
Oui, la France, comme d'autres pays, d'ailleurs, tout ce qui représente la liberté de penser, effectivement, nous sommes des cibles. C'est un peu ce qu'on veut inculquer, c'est cette culture de la vigilance. C'est l'affaire de tous, effectivement. Les forces de l'ordre, les policiers, les militaires sont là pour protéger les citoyens. Mais il faut aussi que le citoyen nous aide à protéger le pays. Et donc, c'est un peu ça, Vigipirate, en fait. C'est sensibiliser les gens pour que tout le monde se sente investi de cette mission, de pas devenir parano, mais de faire attention, de signaler, de pas hésiter. Vigipirate, ça date depuis 1978. Voilà. Donc c'est pas neuf, mais ça a apporté aussi ses fruits. Et en fait, depuis 2016, effectivement, c'est Urgence Attentat, là, comme aujourd'hui, le dernier échelon qui a été créé suite justement aux attentats de 2015. Voilà, on a changé d'air en 2015, on a changé de logiciel.
Mais là où on avait perdu finalement d'une certaine façon avec les opérations militaires françaises, notamment, et je ne pense qu'au Sahel, mais il y a eu d'autres opérations qui ont affaibli Daesh, qui ont affaibli l'État islamique. Là où on pensait jusqu'à récemment que les attaques dites de grande envergure ne nous menaçaient plus, au contraire une menace endogène avec des attaques plus ponctuelles, plus individuelles, nous sommes revenus quelques années en arrière avec cette reconstitution d'une antenne comme cet État islamique en Afghanistan.
En fait, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des grandes structures, des structures qui ont été déstabilisées effectivement avec la guerre en Afghanistan, la guerre au Sahel, et puis qui se reconstituent aussi parce qu'il y a des aides de certains pays étrangers, il y a des aides de certains financiers, et donc ils se reconstituent et ils reforment des cellules. Et on voit bien qu'avec le flux d'immigration aussi qu'il y a, dedans, il peut y avoir des chevaux de Troie, mais bon, ça s'appelle le cheval de Troie, mais qui rentrent comme ça dans un pays, et puis qui se font oublier d'un seul coup, qui peuvent passer à l'acte au bout de quelques mois, quelques années, et on ne les a pas vus venir. Voilà, on a des communautés tchétchènes, on a des communautés un peu de partout. Je ne vise aucune communauté en particulier, mais c'est vrai que dans le tas, il peut y avoir effectivement...
Il y a des relais, ce qu'on appelle des relais, oui, de ces branches armées, de ces organisations
des
en Europe et sur notre territoire.
On l'a vu en 2015.
L'exécutif sur le pont pour alerter, sensibiliser la population. On a entendu le président en Guyane, le Premier ministre qui était donc en déplacement à la gare Saint-Lazare, le ministre de l'Intérieur aux 20h de France 2 ce soir. Écoutez.
Et on voit que notamment, c'est pour ça que le président de la République a pris cette menace hier au Conseil de défense, que l'État islamique, qui est l'auteur des 8 derniers attentats déjoués en France, donc on voit bien que les 8 derniers attentats, c'est l'État islamique. L'État islamique a menacé beaucoup de pays européens, la France notamment. L'Allemagne a déjoué encore des attentats comme l'Autriche en décembre dernier. L'État islamique est capable désormais de pouvoir enclencher des attentats à distance, puisque ce qu'on comprend de l'attentat en Russie, d'après nos services de renseignement, c'est que des gens à l'extérieur, dans d'autres pays, ont pu donner des ordres à des gens à l'intérieur d'un pays pour passer à l'acte de manière coordonnée avec le massacre qu'on a vu.
Bonsoir Guylain Benessa, qu'on invite à participer avec nous à cette discussion, avocat, auteur du livre notamment L'état de droit à l'épreuve du terrorisme. Merci d'être avec nous par vidéo pour répondre à une première question. Comment on décide d'ailleurs de hausser ou d'abaisser ce niveau d'alerte? Est-ce que ce n'est qu'en fonction de l'actualité? Parce que ce qui se passe en Russie finalement est assez éloigné de nous. On se dit de toute évidence que le pouvoir a forcément des informations que nous n'avons pas pour agir si vite, si fort.
Bonsoir Julien. Une remarque, je veux pas revenir 10 minutes en arrière, mais tout de même, je constate qu'on est parfois atteint d'amnésie.
Pourquoi ?
En disant que je parle de Moscou, une seconde à Moscou et je reviens à Paris, hein, si vous permettez.
Bien sûr.
C'est quand même que lorsqu'on nous dit que, et j'entends Philippe Guibert tout à l'heure, je ne suis pas forcément désaccord avec lui sur la France, mais sur la question de Moscou, on s'étonne et on pointe le caractère totalitaire. Enfin, l'état dur russe qui réagit. Je rappelle qu'il y a 20 ans, il y a 23 ans, les États-Unis sont partis en guerre sur un mensonge en Afghanistan, en Irak, et surtout ont pris la peine, grande démocratie éclairée, d'embastiller à Guantanamo dans des conditions effroyables, et on a quand même une doctrine d'un état démocratique, la démocratie libérale à son paroxysme, les États-Unis, qui a quand même ouvert Guantanamo pour, mettre en place des conditions de détention et ce qu'on appelait à l'époque les interrogatoires coercitifs, qui étaient en fait des méthodes de torture à peine déguisées qu'on a pratiquées durant des années, etc. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas fermé Guantanamo 20 ans plus tard. Donc le problème...
Ghislain, c'est une des hontes des États-Unis. Tout ça.
Attendez, Philippe, je ne dis pas que c'est bien. Je dis ça. Et loin de moi l'idée de dire que c'est bien. Je dis simplement qu'il y a 20 ans, la démocratie libérale n'a pas été, un fleuron, un exemple dans le monde entier. Donc, je ne justifie pas l'acte. Je dis simplement qu'il est bon de regarder que nous n'avons pas toujours été un exemple, quand occidental, on va dire, et qu'aujourd'hui, la Russie qui réagit de cette façon-là, c'est d'autant moins étonnant que, quelque part, on a été un contre-exemple également, alors que nous n'aurions peut-être jamais dû l'être 20 ans auparavant. Pour revenir sur la question, Julien, précise de la France, en fait, la hausse du niveau Vigipirate est le résultat, évidemment, de l'actualité russe et, évidemment, de ses retombées potentielles parce qu'en fait, on se situe au carrefour entre un attentat qui a eu lieu il y a 2 jours, enfin, il y a quelques jours à peine, qui justifie la hausse, hein, comme c'était l'attentat d'Arras avait également donné lieu au curseur 3 du plan Vigipirate, mais également parce que dans 3 mois, on a les JO, dans 4 mois, je crois, jour pour jour, on a les JO. Donc évidemment, entre les informations qu'on a, l'État islamique qui en réalité s'est recomposé et n'a jamais disparu, mais sous une autre forme, en fait, que le califat, organisé tel qu'on le connaissait, et la perspective de la France qui avance à grands pas vers les Jeux Olympiques, on a en fait un creuset, et on est au plein milieu de tout ça, où il faut qu'on constitue une espèce de défense maximale, un peu en catastrophe, en utilisant tous les moyens, notamment la mobilisation de tous les Français.
Mais tout ce qui a été fait ces dernières années pour lutter contre Daesh est vain, en fait, puisqu'il y a cette impression de, je vais reprendre cette image qui est souvent utilisée, mais de cette hydre dont la tête repousse sans cesse.
Ah mais c'était effectivement, vous avez raison de rappeler, c'était Emmanuel Macron qui parlait d'hydre islamiste il y a quelques années pour qualifier la menace. En fait, à mon avis, l'erreur qu'on fait depuis longtemps, enfin qu'on fait, je ne parle pas du tout des services spécialisés, hein, je veux dire au niveau des analyses ou des commentaires, etc., c'est qu'en fait, on ne réalise pas qu'il y a un caractère, j'allais dire conjoint, mais c'est trop fort. En tout cas,
ah, on a un petit souci de liaison avec Guilin qu'on va retrouver dans un instant. Tiens, juste écoutons, on va vous entendre bien sûr. Je voudrais juste qu'on entende Gabriel Attal qui, donc à la gare Saint-Lazare à Paris tout à l'heure, rappelait que la volonté était d'asphyxier le terrorisme et les terroristes.
La menace terroriste islamiste est réelle, elle est forte, je le dis, elle n'a jamais faibli. Et autour du président de la République, avec l'ensemble de mon gouvernement, notre mobilisation est évidemment totale pour y faire face. L'ennemi, il a un nom, je le redis ici, c'est le terrorisme islamiste. Il s'immisce partout, l'islamisme, où nous baissons le regard, où nous acceptons le pas de vague, où nous laissons l'angélisme triompher. Alors partout, nous ne devons pas laisser le moindre millimètre au terrorisme islamiste. Et nous agissons partout pour l'asphyxier à l'extérieur de nos frontières, mais aussi à l'intérieur de nos frontières. Nous ne lui laissons aucune chance.
On vous a retrouvé, Guilin Benessa. Pardon, mais j'ai avancé entre-temps. On vient d'entendre le chef du gouvernement. Est-ce que ça a un intérêt de dissuasion, notamment sur les individus qui sont surveillés, ce genre de discours et cette vigilance attentat poussée au maximum?
Bah, vous savez, l'intérêt d'avoir des fouilles renforcées à l'entrée des cinémas, des salles de spectacle, etc., c'est à mon avis, c'est on ne peut plus légitime dans une situation comme ça. Je veux dire, c'est un début nécessaire, quelque chose comme ça. Ensuite, je pense quand même que on parle de discours de dramatisation. Je pense surtout que, vous savez, on dit en même temps qu'on s'habitue. C'est un discours qu'on entend. Hein. Mmh. On s'habitue à vivre avec la menace, mais en même temps, quelque part, on s'habitue à ne plus vivre avec, c'est-à-dire en sachant qu'elle est là, tout en ayant oublié la dangerosité en fait, d'une grande menace ou d'une attaque à grande échelle comme celle de Moscou. Donc, quelque part, le fait de mettre l'accent sur le plan Vigipirate renforcé veut dire qu'on mobilise un discours, on met l'accent sur la tragédie, on aggrave peut-être un peu la situation quelque part au niveau du discours, du lexique. Mais en même temps, c'est pour faire prendre conscience à tout le monde qu'on est tous des acteurs en fait de cette société, la fameuse société de la vigilance, tout en sachant, et c'est là où je suis extrêmement sceptique personnellement, c'est qu'en fait nous ressemblons quand même à des somnambules dans la mesure où ça fait des années que ça dure et on pensait de façon extrêmement naïve que la chute de al-Baghdadi et de l'État islamique suffirait à endiguer la menace, alors qu'en fait, comme l'État islamique et Al-Qaïda, tous les deux vivent encore sous autre forme parce qu'en réalité, il y a des relais en France parce que cette idéologie s'est largement imposée. Et je rappelle, je ne vais pas faire trop long, hein, Julien, vous m'expliquez.
Non, non.
Aujourd'hui encore, Gabriel Attal, on a loué, j'ai entendu tout à l'heure des gens louer sa parole musclée, on va dire, mais en réalité, la naïveté continue. Il a été capable ce soir de dire que l'islamisme n'a rien de religieux.
C'est vrai.
Ça veut dire qu'on est encore dans un discours.
Mais est-ce qu'il a tort ? L'islamisme n'est pas une religion.
Ben si, bien sûr que c'est une dimension.
Oui, mais j'entends bien, mais le diable existe parce que Dieu existe.
Non. L'islamisme, c'est un fondamentalisme de l'islam, donc c'est un rapport évident avec la religion.
Guilin.
Comme tous les fondamentalismes dans toutes les autres religions.
Et il n'a pas dit l'islamisme n'a pas de rapport avec, n'est pas en rapport avec la religion. Il a dit l'islamisme n'est pas une religion.
Bah, ça ne veut rien dire parce que c'est le
dérivé. En soi, il a raison. Pardon, l'islamisme n'est pas une religion.
Non, c'est le dérivé d'une religion.
Oui, mais ça n'est pas une religion. Et en cela, il a pas tort. Guilin, pardon.
Il a dit que c'était une spirale. Alors, il faudra définir.
Oui, alors ça aussi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il a dit ce n'est pas une religion, ce n'est pas une idéologie, c'est une spirale. Bon, les trois peuvent être contestés, mais
c'est une idéologie.
Bon, Guilin, finissez votre phrase, Guilin.
Précisément, l'islamisme est une version radicale et quelque part extrême ou intégriste ou fondamentaliste, effectivement, Philippe a raison, de l'islam. Et le problème, à mon avis, c'est que si on prend l'exemple de la Russie encore, il y a quelques jours, la Russie est également mise en cause, à mon sens, parce que elle a une relation avec l'orthodoxie, je veux dire, qui est extrêmement profonde.
Bah, bien sûr.
Poutine, c'en est fait également quelque part le gardien, je veux dire, dans une version extrêmement particulière. Mais c'est clair que la chose est là et qu'en réalité, on n'a toujours pas compris que ce soit une menace endogène ou extérieure, nous sommes visés parce que nous sommes français et chrétiens. Et si nous sommes français et chrétiens, c'est parce qu'en face, on a des islamistes qui considèrent que la France chrétienne est un problème, parce qu'en réalité, l'universalisme d'ailleurs dont nous sommes porteurs est le fruit d'une relation chrétienne, de racines et d'un ancrage qu'ils combattent absolument et par tous les moyens. Et là-dessus, il y a un vrai lien entre la Russie et nous, parce que l'orthodoxie chrétienne, comme notre catholicisme, le protestantisme ou le judaïsme, ont beaucoup plus à voir entre elles contre un ennemi commun qui est l'islamisme et qui rebat les cartes de la guerre, entre la Russie et l'Ukraine, etc. Les cartes sont rebattues parce que cet élément-là est fondamental. Or, à mon avis, là encore, Attal fait du Macron ou du petit Macron, c'est-à-dire on dit sans dire, on avance sans vraiment avancer parce qu'on ne veut pas désigner l'éléphant au milieu du corridor.
Guilain Bénessa, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous le souhaitez dans cette discussion. Jean-Christophe, les Français doivent donc comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura plus de surveillance, plus de fouilles, plus de temps d'attente quand vous prendrez le train, quand vous prendrez l'avion. Il faut reprendre collectivement conscience de tout cela.
Ouais, mais je suis pas sûr que les Français aient baissé la garde, en fait. Parce que, non, on a envie de vivre aussi, ce qui est normal. Mais
on avait quand même l'impression que c'était un peu derrière nous avant. Non,
c'était il y a deux mois, la dernière alerte.
Oui, mais justement.
Parce qu'en fait, on fait pas. Non, et parce qu'en fait, une séquence médiatique en chasse une autre, et on a l'impression que ça y est, on oublie parce qu'on passe à autre chose. On est passé des agriculteurs, la colère des agriculteurs, à d'autres séquences. Je vous dis, les Français, depuis 2015, ils ont compris qu'il y avait un problème dans le pays, et pas qu'en France, et qu'effectivement, ils étaient des cibles potentielles. Les policiers aussi, Xavier Jugelet en 2007, les époux Salvin, qui, jusque chez eux, on est venu les tuer. Donc les policiers ont des cibles dans le dos, on le sait, on a ça à l'idée tous les jours quand on travaille.
Et là, vraiment, la nuance, ce que je disais il y a quelques minutes avec vous également, c'est qu'on revient à cette notion d'attentat de haute intensité avec ce qui s'est passé à Moscou et ce que dévoile notamment le chef de l'État aujourd'hui sur ces attentats déjoués. D'ailleurs, on en verra le détail dans un instant.
On avait déjà parlé ces derniers temps. Enfin, on sait, Al-Qaïda et d'autres avaient émis des revendications ces derniers mois. Donc oui, l'attentat de Moscou le remet sous les lumières, mais moi, je pense que les Français n'ont jamais oublier en tant que citoyen la menace qui pèse sur nous. Après, il y a cette menace de haute intensité, pour reprendre l'expression que vous avez employée, ça ne change pas le fait qu'il y a ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette réalité en Russie, mais aussi en France, cette réalité domestique, parce que de toute façon,
endogène,
souvent, même quand il y a des groupes avec des projets, et des cerveaux ou des commanditaires extérieurs, ça n'empêche pas qu'ils s'appuient sur des gens qui sont présents dans le pays, et il y a une manipulation de l'expérience de l'immigration ou de l'expérience de la désociabilisation ou du fait que ça peut être très difficile d'être un immigré dans un pays dont les valeurs, les codes, bref, ne sont pas les vôtres, et que cette menace-là, elle pèse sur l'ensemble des pays occidentaux parce qu'il y a des tas de gens qui malheureusement sont assez mal intégrés et que les islamistes ont très bien compris comment les manipuler.
Karim Ayoun, vous reprenez tous les deux. Je voudrais juste qu'on entende là encore une dernière fois Gérald Darmanin au 20h de France 2 ce soir qui parle justement des divers attentats déjoués ces dernières années et deux pour la seule année 2024.
Ce que je peux vous dire, c'est que la France, chaque semaine, a des renseignements, en donne à d'autres services, permet à d'autres services d'arrêter des personnes et évite des passages à l'acte ou des organisations par des financements, par de la circulation d'armes, par des cibles. Et donc oui, nous déjouons beaucoup d'attentats en France, un tous les deux mois, organisés. Et je constate que nos amis autrichiens et allemands ont aussi, sur le sol européen, mis fin à des organisations d'attentats de l'État islamique en Europe.
Karim Abric.
Extrêmement troublant, c'est-à-dire
45 attentats depuis 2017, dont deux cette année. C'est un travail de titan pour les renseignements. On pourra en dire un mot aussi avec Jean-Christophe.
45 attentats déjoués depuis 2017. On disait déjà qu'il y en avait deux depuis le début de l'année. Donc oui, on se réjouit, tant mieux que les renseignements fassent leur travail. C'est très bien, mais en même temps, c'est inquiétant parce qu'on n'en parle pas tous les jours, mais on voit que c'est ce qui se trame. Et qu'est-ce que ça nous dit finalement? Ben, c'est que l'Europe et la France particulièrement, ben, c'est un terrain de jeu particulièrement intéressant pour les islamistes radicaux. C'est vraiment, ils se font une joie d'essayer de faire des choses sur le territoire de l'Europe. Et pourquoi particulièrement la France? Ben, il y a cet aspect aussi de protection de la liberté, mais aussi de la laïcité, de ce modèle français qui en fait malheureusement aussi une cible. Et je veux revenir aussi sur, bon, on a parlé de ces menaces exogènes, de ces, vous avez appelé ça les attentats de haute intensité, un petit peu ce qu'on a vu en 2015, bien sûr le traumatisme de 2015-2016, mais il y a toutes ces antennes, notamment chez les jeunes, de plus en plus jeunes, la radicalisation qui se fait via les...
On va parler de l'alerte dans les établissements aussi.
Via les boucles, justement, et ben, ces fameuses antennes un peu partout. On peut le voir, donc, des actes, entre guillemets, isolés qui ne sont pas isolés. Et je m'inquiète aussi sur la question des JO, parce qu'on a parlé de cette sécurité, mais on en parlera tout à l'heure aussi pour les athlètes qui seront présents dans un contexte de guerre. Ukraine, Russie, ce qui se passe, évidemment, Israël, Hamas. Donc, imaginez les athlètes, que ce soit des athlètes français, les athlètes israéliens, les athlètes ukrainiens. Donc, il y a tout ce cocktail en ce moment qui est particulièrement, pardonnez-moi l'expression, mais explosif.
Johan?
Ce qui me frappe le plus, en tout cas ce qui m'interpelle et ce qui doit nous interroger tous, c'est quand même qu'il me semble que nous avons créé les propres conditions de notre malheur. Parce que Jean-Sébastien l'a dit, si ces attentats d'ampleur sont organisés depuis des pays étrangers, ceux qui commettent ces attentats sont en réalité déjà sur notre sol. Et comment sont-ils venus sur notre sol? Ils sont venus parce qu'il y a une immigration légale qui est sans doute trop abondante. Qui
et des frontières non maîtrisées.
L'intégration ne fonctionne plus dans ce pays. Une immigration illégale qui est incontrôlée, et dans cette immigration illégale se glissent parfois des terroristes. Il y a des conditions d'asile qui sont sans doute trop peu restrictives, ce qui fait qu'on accorde parfois le droit d'asile, et on l'a vu ces dernières années en France, à des personnes qui n'auraient pas dû l'avoir et qui ont commis des attentats sur notre sol. Si on remonte encore beaucoup plus loin, si on remonte en 2011, quand Nicolas Sarkozy a décidé de déclencher la guerre en Libye, personne n'a pensé à ce moment-là que ça allait déstabiliser toute une région et que ça allait permettre effectivement à une immigration illégale d'être simplifiée, d'être facilitée et d'engendrer là aussi une forme de nouveau terrorisme. Donc tout cela fait que nous avons nous-mêmes créé des conditions d'insécurité permanente dans ce pays et des risques accrus de terrorisme.
Justement, pour abonder dans votre sens, écoutez Thibon de Montbrial qui était tout à l'heure chez Laurence Ferrari et qui parle notamment, oui, de cette question des frontières non maîtrisées qui laissent passer des terroristes en puissance.
Si vraiment on veut balayer tout le spectre de la lutte antiterroriste, on est obligé de commencer à s'intéresser à la façon dont les commandos peuvent entrer en Europe et ça amène à la politique migratoire puisque aujourd'hui, on sait aujourd'hui que le commando de 2015 qui a attaqué le Thalys en août 2015, puis le Bataclan et Paris le 13 novembre 2015, puis Bruxelles en mars 2016 est un commando qui est entré pour sa très grande majorité avec les migrants et qu'un certain nombre d'auteurs d'attentats, notamment en France, sont également entrés avec les migrants, et tous les services de renseignement sont pendus à la sonnette d'alarme et réclament un meilleur contrôle de ces frontières par l'Europe. Et là, on touche par contre à un champ qui est un champ politique sur lequel les États européens ne sont pas d'accord entre eux et sur lequel la Commission n'est pas complètement en harmonie.
Guylain Benessa, vous êtes toujours avec nous et Philippe vous répondra également parce que ça fait un petit moment là qu'il patiente pour vous répondre. Bon, allez-y très vite et je reformulerai ma question à Guylain. Allez-y, Philippe.
Non, mais Guylain a évidemment raison qu'il y a un facteur culturel et religieux qui est tout à fait fondamental, que Huntington a parfaitement démontré il y a 30 ans dans un livre qu'on ne veut pas lire en France, mais qui montrait parfaitement la logique qui était à l'œuvre. Là où je ne suis pas d'accord avec Guylain, c'est qu'il nous rassemble avec la Russie. Mais d'abord, Poutine a fait de l'Occident et de l'Europe...
Donc c'est l'ennemi commun qui nous rassemble.
Son ennemi et toute son erreur stratégique est précisément d'avoir ciblé beaucoup plus l'Occident à travers l'Ukraine que justement cette menace terroriste qu'il a comme laissé tomber. C'est pas par hasard s'il est dans le déni depuis, enfin pas dans le déni ou dans la manipulation depuis 3 jours, c'est justement parce que ça, il ne voulait pas le voir. Donc c'est la faillite du pouvoir russe par rapport à cette menace terroriste qui est réelle. Et puis deuxième remarque, Moscou c'est quand même le premier attentat de très grande ampleur que commet l'État islamique depuis
quand même assez longtemps. Il y a eu des actions individuelles, y compris en France.
Mais à haute intensité, ça faisait longtemps, c'est ce qu'on disait.
C'est qu'ils ont retrouvé cette capacité à mener des actions type Bataclan, et y compris dans un pays comme la
Russie. Moi, je persiste à dire qu'on s'est senti préservé pendant quelques années, et ça a permis à ces organisations de se reformer d'une certaine façon aussi.
Si. N'oubliez pas quand même qu'on a beaucoup parlé d'attentats à la suite du 7 octobre, qu'on a eu quand même deux attentats en France. Certains nous ont dit on va passer les fêtes en état d'urgence, c'était le cas Thierry de Montbrial. Ça n'a pas été le cas, et donc... On a passé cette menace un peu au second plan, c'est vrai.
Et pour retomber sur nos pattes, si je puis dire, Guilain Benessa, on a entendu Thibault Montbrial sur ces frontières non maîtrisées qui font effet passoire pour certains terroristes ou personnages malveillants. Il y a des relais dans les pays européens qui permettent donc à ces organisations, en l'occurrence là basées en Afghanistan, de préparer ces attaques.
Alors, une remarque sur les frontières, qui en fait, une remarque en deux temps. Première remarque, on a, vous savez, récemment, Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex, a rejoint le RN pour les européennes. En fait, Fabrice Leggeri, quand il était à la tête de Frontex, car Frontex, c'est le garde-côte, enfin, c'est le garde-frontière européen. En fait, Frontex est une blague, je veux dire, dont on se rend compte chaque jour un peu plus davantage, puisque, en fait, l'objectif de l'Europe, c'est d'avoir un garde-frontière qui ne garde surtout pas les frontières et qui est devenu de l'avis de Fabrice Leggeri, quand il était à l'époque patron de Frontex. Il disait que Frontex n'était pas une agence de surveillance des frontières, c'était une agence de surveillance des droits fondamentaux des migrants. Ça veut dire qu'en fait, on vérifie à ce qu'on garde les libertés et les droits des migrants qui viennent, mais on ne se demande pas franchement s'il s'agit de protéger les frontières et d'éviter l'immigration illégale, premier élément. Et deuxième, pour vous répondre clairement, est-ce que la France est exposée ? Alors là, prenons un exemple pour que tous les Français comprennent la folie dans laquelle nous vivons, la folie absolue. Il y a un an et demi, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, condamnée quand même, c'est pas rien, je veux dire, la chose est claire, condamnée parce qu'elle refusait par principe de rapatrier les familles de ces djihadistes partis faire la guerre en Syrie aux côtés de Daesh. Ce qui veut dire que la France a été condamnée par les juges, condamnée à ne pas mettre en parce qu'elle refusait de mettre en jeu des conditions légitimes, enfin des conditions légales, juridiques, des comités, on va dire quelque chose comme ça, une supervision pour s'assurer de rapatrier chez elle les familles de djihadistes partis volontairement là-bas mener la guerre sainte contre les Français qui justement défendaient la France là-bas. Donc ça veut dire qu'on est pris pieds et poings liés dans un réseau global d'interdiction qui fait qu'ensuite on s'étonne à ce qu'en France, effectivement, Johan disait, on est quelque part mis en place les conditions de notre propre défaite, puisque de toute façon, on a aujourd'hui une commissaire des affaires étrangères et intérieures européenne qui s'appelle Ylva Johansson, qui est en fait le ministre des affaires intérieures européen d'une certaine manière, qui nous explique que de toute façon, l'Europe ne tiendra pas sans une immigration massive de renouvellement, nous sommes trop vieux, donc il faut une nouvelle immigration, ce qui veut dire qu'en même temps, on favorise l'immigration, qui en même temps est exactement ce qu'utilisent les terroristes et les islamistes pour justement s'infiltrer en France et mettre en place les conditions des attaques à venir. Donc soit on s'attaque au tout, soit on s'attaque à rien. Sinon, on fera des vigipirates qui sont bien en soi, mais qui sont des mesurettes par rapport à l'océan dans lequel tout ça est pris.
Juste une remarque, d'accord. La Russie, elle n'a pas l'Union européenne, elle n'a pas toutes les contraintes que nous avons, et ça ne l'a pas empêché de subir un attentat. Et donc le problème est peut-être un petit peu plus profond que ça, c'est de savoir pourquoi une idéologie religieuse fonctionne et pourquoi l'État islamique arrive à perdurer malgré sa défaite en Irak et en Syrie, pas loin de 5 ans après. C'est ça le problème de fond. Parce que je veux bien qu'on fasse des dissertations.
En 20 secondes, Guilain, s'il vous plaît, parce qu'il est 23h30, on va enchaîner avec le JT. Alors je voudrais que Guilain réponde en 20 secondes et on poursuivra ensemble après le JT.
Je mets juste une phrase pour les pensants de Philippe. L'État islamique a aussi commis un attentat terrible en Iran et l'Iran n'est pas réputé pour être un régime.
Guilain, vous voulez conclure 20 secondes vraiment, s'il vous plaît.
Je me prétends absolument pas ça. Je dis simplement que c'est pas parce que la Russie est attaqué pour des motifs, on va dire, qui sont comparables à ce qu'on peut subir, que pour autant il n'y a pas de façon urgente à considérer les conditions pour lesquelles en France on aurait des barrières de protection. Ça n'empêche en rien que chaque État doit les mettre en place, il n'empêche que quelque part on a une faiblesse intrinsèque à laquelle un jour il va falloir s'attaquer, sinon on aura forcément, comme depuis quelques années, la poursuite d'un terrorisme sous quelque forme que ce soit massif, soit endogène.
Merci,
sinon on sera toujours pieds et poings liés.
Merci beaucoup, Guilain Benessa, avocat, auteur notamment du livre « L'état de droit, les preuves du terrorisme ». Et vous savez que vous êtes toujours le bienvenu sur ce plateau dès que vous quittez votre Alsace adorée pour nous rejoindre, cher Guilain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 23h31, un point sur l'actu. Faut-il craindre encore plus une menace sur les Jeux Olympiques ? On en parle quelques instants avec vous, cher Jean-Christophe. Et puis, on reviendra également sur ces opérations PlaceNet qui se poursuivent. Grosse opération dans le nord de la France aujourd'hui pour lutter toujours, bien sûr, contre le trafic de drogue. Maureen Vidal, l'essentiel, on se retrouve dans une minute.
Les quatre assaillants présumés de l'attentat de Moscou et trois autres suspects ont été placés en détention provisoire. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique a fait 137 morts, une revendication que le Kremlin a refusé de commenter. Les recherches continuent dans les décombres du Crocus City Hall. Alors qu'une résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza a été votée à l'ONU, la France demande un cessez-le-feu permanent après le ramadan entre Israël et le Hamas. C'est ce qu'a plaidé aujourd'hui l'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas Derivière. Enfin, face à la situation chaotique à Haïti, les ressortissants français vont être évacués en Martinique. Des vols spéciaux ainsi qu'un bâtiment de la Marine nationale ont été réquisitionnés. Haïti est en proie à l'ultra-violence liée aux gangs qui prospèrent sur l'île.
Merci Maureen. On pense évidemment ici à cet événement majeur, Jean-Christophe Couvi, que seront les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas à partir du 26 juillet, si je ne m'abuse. Événement de cette nature qui est une cible majeure, évidemment. Est-ce que vous êtes inquiet ce soir, Jean-Christophe, pour ces JO ? Alors, et la cérémonie d'ouverture particulièrement.
Inquiet, si on dit on n'est pas inquiet, c'est qu'on est un peu suffisant. Mmh. En fait, le propre du policier, c'est toujours d'être inquiet parce qu'il faut toujours qu'on lève notre niveau. Et oui, bien sûr qu'on est inquiet. On a envie que ça se passe bien. Et en même temps, c'est aussi de notre devoir de montrer aux citoyens et aux gens qu'on est capable de manager. Quoi. Voilà, c'est normal. Cette inquiétude, on l'a en nous. Mais après, il faut aussi qu'il y ait un effet miroir et qu'on montre qu'on maîtrise la situation. Si on commence à dire aux citoyens, attention, oh là là, on va rien maîtriser, on a peur de tout et tout, non. Il faut y aller, on a relevé le défi, on relève le défi. Et puis, ma foi, et encore une fois, tout pèse sur les épaules des policiers. Encore une fois, je veux dire, tous les jours, à chaque fois, on parle de la police et la société. J'ai l'impression qu'elle tourne autour de la police parce qu'à chaque fois, il y a une réponse sociétale, c'est la police.
Ça va suffire, ce qui s'affiche sur notre écran, le RAID, le GIGN, la BRI, les services de renseignement en alerte, 30 000 policiers sur le terrain, 15 000 militaires en renfort. Il ne faut pas moins que ça pour sécuriser cet événement.
C'est normal qu'on reçoit la planète entière, pratiquement, dans notre pays. C'est normal qu'on leur donne les meilleurs d'entre nous et les policiers. Tous les policiers seront présents puisqu'on est à 100% des capacités. Et après, voilà, on a un niveau d'intervention entre les BRI, le RAID, le GIGN pour les gendarmes. Et même, je vais vous dire, il y a aussi les BAC, parce qu'on dit toujours les BAC, mais c'est les premiers intervenants pour les tueries de masse. Et aussi les CRS. Dans chaque CRS, il y a une compagnie, les SPI, on appelle ça. C'est la section de protection et d'intervention. Il y a 25 CRS qui sont entraînés, les SPI 4G. Quatrième génération, qui sont entraînés aux tueries de masse. Donc en fait, on a développé ce système depuis 2015, incroyable. Où aujourd'hui, on a des intervenants, des primo-intervenants, et encore une fois, on intervient en moins de 30 minutes, c'est le protocole.
On nous dit, Jean-Sébastien, que la menace est au maximum, et pourtant, on maintient cette ambition que certains, et je pense notamment à Alain Bauer, je ne cite pas n'importe qui, parle d'un acte quasi criminel, qui est cette cérémonie d'ouverture avec des centaines de milliers de personnes au bord de la Seine. Soyons logiques. Si la menace est au maximum, passons au plan B, peut-être renonçons à cette cérémonie d'ouverture, qu'en dites-vous ?
Je ne sais pas si on peut parler d'acte quasi...
Je citais Alain Bauer.
J'ai bien compris que vous citez.
Je crois bien que c'est le mot qu'il a utilisé. Hein. C'est criminel de faire cette cérémonie d'ouverture, il y a de longs mois en arrière.
Mais en tout cas, ça pose effectivement un certain nombre de questions, et on sait qu'il est plus facile de sécuriser un stade. Il y a des questions qui se posent sur les drones. Il me semble qu'un certain nombre de parlementaires, d'ailleurs, ont posé des questions à ce sujet-là, sur la sécurisation face à la menace qui pourrait arriver par drone dans les commissions de la Défense, au Sénat notamment, et qui n'ont pas obtenu de réponse très convaincante. Donc oui, les questions, elles existent. On peut se demander s'il n'y a pas une forme d'hubris de la part du président de la République de vouloir à tout prix avoir une cérémonie dont, bien sûr, elle sera certainement magnifique, et chacun ne peut que souhaiter qu'elle se passe bien. Mais on peut parfois être rattrapé par l'hubris dans les périodes où, comme vous l'avez dit, les menaces sont multiples, et en plus avec une composante technologique qu'il ne faut pas sous-estimer.
Est-ce qu'on peut maintenir cette cérémonie sur la scène, Jean-Christophe ? Est-ce qu'on est obligé, de montrer au monde que oui, nous sommes capables d'être les premiers au monde à faire une cérémonie d'ouverture hors d'un stade sur un parcours de 6 km sur la Seine avec des athlètes, Karima le rappelait, israéliens, ukrainiens et j'oublie peut-être d'autres pays sensibles, américains, iraniens, qui seront sur la Seine. Est-ce que c'est raisonnable?
Mais alors, c'est pas à moi de juger. Effectivement, c'est une commande politique. Après, nous, policiers, on est obligés de...
C'est une commande politique.
Mais oui, c'est une commande politique. Quand le chef de l'État a dit ça va se faire là et on le fait là, effectivement, personne, j'ai pas entendu... les ministres s'opposer, on va dire oui bien sûr tout va être possible. Donc après c'est leur ruissellement et nous on nous demande de faire le job. Donc par essence on va faire le job et on veut que ça réussisse bien sûr. Et si on réussit, parce qu'on dit toujours eh oui mais ça va foirer. Et si on réussit, qu'est-ce qu'il y aura derrière? On va dire ah les Français ils ont fait quelque chose que jamais personne n'a osé faire depuis la création des Jeux Olympiques. Et donc, ça va aussi redorer notre blason. Oui. Et à chaque fois, vous savez, c'est comme au rugby. On nous attend
jamais. Ça va pas augmenter votre pouvoir d'achat.
On sort le match. Et ben là, ça sera pareil.
Ouais, je sais que c'est. Aussi, c'est très démago ce que je viens de dire. C'est très café du commerce, mais ça reste. Là, on est un petit peu en train de noyer le poisson sous des actualités, oui, majeures, terribles, dramatiques. Mais les priorités des Français, là, je veux dire, on n'en parle plus beaucoup.
Sauf que là, vous parlez des JO. Ah, c'est oui, les JO, ça arrive une fois comme ça.
Oui, non, mais c'est magnifique. Je suis le premier à dire que c'est magnifique. Je suis le premier à dire que c'est magnifique. Je suis un amoureux des Jeux Olympiques, mais je trouve que cette cérémonie n'a pas lieu d'être.
Il y a des adaptations quand même. Alors, on le voit déjà sur les jauges, ça a changé.
Oui, ouais, bah, super.
Je pense que jusqu'à la dernière minute, les services de renseignement, la sécurité, le gouvernement est quand même... je veux dire, tout le monde se prépare là-dessus aussi. Là. Il faut quand même s'adapter. Puis moi, j'ose espérer, je me dis, bon, ils ont quand même tous les scénarios disponibles. Et en ce moment, bon, on juge encore que c'est possible de le faire. Après, est-ce que c'est dans 4 mois? Donc, si on est décidé...
Ça va vite, hein?
Ben voilà. Oui, mais justement, donc si on persiste les signes, il faut que ça aille avec la sécurité aussi.
Bon, qui va dernier mot et on parle de l'opération PlaceNet.
D'autant qu'il y a éventuellement un autre risque que celui de la cérémonie.
Parle plus fort que vous.
C'est-à-dire que la mobilisation absolue des forces sur un événement en particulier, mécaniquement, elle entraînera une moindre mobilisation
évidemment
ailleurs et à d'autres moments, puisque les forces de l'ordre ne peuvent pas être surmobilisées 360.
Je crois que vous allez avoir un pic historique de cambriolage le soir du 26 juillet. Parce que vous aurez tous les policiers de France qui sont sur les quais de Seine. Et puis derrière, je peux vous dire que les...
C'est marrant, cette fascination française pour l'échec.
C'est vrai, en fait. C'est l'esprit Poulidor, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ah ouais, mais c'est là, du syndrome
Poulidor. Moi, je suis sûr qu'il n'y aura pas...
Jean-Christophe, juste, Emmanuel Macron avait répondu à cette question, puisqu'elle lui a été posée...
Vaut mieux prévenir que guérir, M. Guibert.
Il y a 3 mois, il y a 6 mois, où il avait dit, on a un plan B, et si on estime que la menace... est trop importante.
C'est quoi le plan B?
Elle n'est pas connue.
Stade de France.
C'est le Stade de France.
Oui. C'est un concert d'Yann Nakamura au Stade de France.
Est-ce que vous vous rendez compte quand même que si on en était là, si on en était à ce que les autorités politiques, parce qu'effectivement ce sont elles qui décideront, décident d'aller au Stade de France et de renoncer à cette ouverture, ça serait une victoire du terrorisme.
Bon.
Oui, pour appeler les choses par leur nom.
Oui, oui, mais c'est encore une fois, c'est pas.
Renoncer à avoir une cérémonie d'ouverture.
Oui, voilà. Oui.
Ah bah si vous renoncez à la cérémonie d'ouverture telle qu'elle a été prévue parce que vous ne sentez pas en situation d'assurer la sécurité, c'est une défaite.
Mais parce que c'est insécurisable une cérémonie comme ça, tout simplement. Et c'est pour ça que personne ne l'a jamais fait, parce que ça n'a pas de sens en fait de mettre des centaines de milliers de personnes sur 6 kilomètres. En fait, ça n'a jamais été fait parce que ce n'est.
Mais les Britanniques l'ont fait pour le jubilé de la reine d'Angleterre, pas le dernier avant sa mort, mais ses 60 ans de règne.
Oui, enfin, je crois qu'il y avait une personnalité qui défilait. Il n'y avait pas 5000 athlètes
sur l'ensemble de la Tamise avec.
On peut imaginer que ça a des.
Opération PlaceNet.
C'est qu'il y a quand même une petite chance que ça réussisse.
Les opérations PlaceNet se poursuivent. On croise les doigts pour que ça réussisse et que ce soit une belle cérémonie. Évidemment, nous ne souhaitons pas être des oiseaux de mauvais augure, n'est-ce pas ?
Un peu d'optimisme, Julien.
C'est ce qui me caractérise.
Croiser les doigts.
Non, il ne faudrait pas que ça finisse à la cigale.
On sait que ça sera un échec de toute façon, parce qu'on n'aura pas beaucoup de médailles. Mais on est pas.
Allez, on y va. Je me fais guirlander dans l'oreille. 6 minutes, s'il vous plaît. Les opérations PlaceNet se poursuivent. Cette fois, c'est dans le nord de la France qu'elles se sont déroulées, dans plusieurs villes sous la houlette du ministre de l'Intérieur. Récapitulatif avec Michael Dos Santos.
Un chien renifleur, de la drogue et des trafiquants interpellés. L'opération PlaceNet XXL a débuté ce lundi à Roubaix. Ici, comme dans d'autres villes françaises, policiers et gendarmes s'attaquent au point de deal. Des immeubles, des gares, des commerces où se trouvent des stupéfiants, des armes, de l'argent... Un travail tentaculaire selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Nous luttons contre une pieuvre dont on doit pas simplement couper les pattes, mais atteindre la tête, pour éviter qu'ils aient trop d'argent, qu'ils aient trop de pouvoir, qu'ils puissent ensuite faire des investissements immobiliers, avoir des entreprises, et ensuite menacer l'ordre établi, c'est-à-dire l'État.
Sous l'œil des dealers, la plupart des riverains sont surpris par cette opération place nette. Ils décrivent même un cadre quasi idyllique.
C'est calme. Les jeunes, il y a des jeunes, franchement, ils sont agréables, ils sont gentils. Toujours bonjour, du respect. Jamais de soucis.
C'est le partage, c'est la générosité. C'est pas Chicago ou New York ou je sais pas quoi. Comparé à Marseille, c'est des tuches ici.
Seuls quelques habitants osent prendre la parole.
On a toujours peur d'être bousculé parce que bon, ça court dans tous les sens, ça crie. Un coup de pied dans la fourmilière, ça fait du bien. Et à refaire souvent.
Dans le cadre de ces opérations Place Net XXL, 850 personnes sont visées par la justice au niveau national. Pour le moment, près d'un quart d'entre elles ont été interpellées.
C'était donc aux 20h de France de ce soir, écoutez-le.
Et on est à 496 interpellations ce soir.
Ça a beaucoup augmenté depuis ce matin.
Ça a beaucoup augmenté parce que le RAID, la BRI, le GIGN, la police judiciaire a fait son travail, a été interpellé des personnes qu'on a souvent mis sous écoute, sous technique de renseignement. On a fait les dossiers en amont avec la justice et on a de très bonnes réponses pénales. On va continuer à le faire. Demain, il y aura d'autres communes d'ailleurs qui seront concernées. Et nous allons continuer notre lutte contre la drogue, qui d'ailleurs, pour faire le lien avec votre première partie, finance souvent le terrorisme dans l'argent sale qui circule. Donc en luttant contre la drogue, on lutte pour la tranquillité des Français avec beaucoup de fermeté, mais on évite aussi le financement et la circulation des armes pour le terrorisme.
Jean-Christophe Couvi, ces opérations Place Net qui se multiplient pour tenter de lutter contre les trafics, travail de très longue haleine pour les policiers sur le terrain, les résultats sont là, des interpellations, mais le trafic perdure, progresse, et j'ai le sentiment que c'est très énergivore pour les forces de l'ordre également.
Bon, les stups, c'est le premier marché criminel au monde, donc forcément, bon, il faut y mettre beaucoup d'énergie. Quand on investit un quartier, on y arrive en nombre, parce qu'il faut, encore une fois, c'est l'encerclement, la tenaille, et puis on interpelle à tout va, mais en même temps, on avait aussi des...
Ce qui nous intéresse, c'est la suite, en fait, de l'opération, la réponse de la justice. En fait, par exemple, il y a eu... Combien, plusieurs dizaines d'interpellations à Marseille?
J'aimerais savoir effectivement.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces interpellés?
C'est ça. Moi, j'ai pas le rétex, le retour d'expérience, mais j'aimerais bien savoir justement ce que vont devenir toutes ces personnes qu'on interpelle. La justice, encore une fois, en fait, on travaille par cylindre, c'est-à-dire par tuyau d'orgue. Il y a d'un côté la police qui se donne effectivement des objectifs chiffrés. Alors, ça m'a toujours étonné, mais bon, c'est chiffré. Voilà, il faut faire du chiffre. En même temps, on a quand même des cibles, parce que ça fait depuis quelques mois qu'on a les cellules de renseignement opérationnel, notamment des stupéfiants qu'on appelle les crosses, qui sont là pour identifier les vendeurs, les têtes de réseau et remonter les réseaux. Donc là, on intervient, on donne le coup d'envoi. Après, il y a la justice qui, effectivement, on va devoir instruire. Parce que nous, en fait, on remet juste la personne avec les procès-verbaux, on monte le dossier. Et maintenant, après, c'est plus à nous de décider ce qu'ils vont devenir.
J'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui, les dealers, ça les fait bien marrer ces opérations place nette, parce qu'ils savent que le lendemain, ils seront de retour.
Non, mais ils vont pas dire autre chose. En même temps, ils peuvent pas dire, mince, ça nous fait super mal. Effectivement, quand vous les pénalisez financièrement, c'est une entreprise. Et donc, forcément, il y a des revenus en moins. Bon, ils en avaient quand même de côté. Il y a des revenus en moins. Maintenant, ce qu'il faut, c'est assécher l'arrivée de la drogue. Parce que là, et encore une fois, les punitions, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Tant mieux. Moi, j'espère qu'ils vont aller en prison. J'espère même qu'on va construire des prisons dans le Larzac, là, bien abandonnées de tout le monde, en plein milieu. On met des brouilleurs. Et là, par contre, ils vont faire leurs 20 ans. Mais en fait, c'est aujourd'hui.
53 000 téléphones saisis dans les prisons en 2023.
J'ai entendu ça aujourd'hui. Mais déjà, il faut voir aussi le nombre de surveillants pénitentiaires.
C'est pas le Salvador.
Ils ne sont pas assez. Donc en fait, il y a un achat de paix sociale, entre guillemets, où oui, je pense que des fois, on ferme les yeux pour pas que les prisons se révoltent. On en est là aujourd'hui en France. Et donc malheureusement, les têtes d'affiche et les dealers continuent leur petit marché, leur business. Entre guillemets, quand ils font la prison, ils payent la TVA. Voilà, c'est une façon de payer.
Concrètement, Jean-Christophe, pardon, mais comment vous voulez percevez ces opérations place nette? C'est juste de la com ou on envoie de vrais signaux et une vraie intention?
Alors un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la com parce qu'effectivement, quand on débarque avec des caméras, c'est pas pour rien, hein, c'est pour montrer que la France avance, le gouvernement avance et l'État avance. Après, nous, on préfère travailler sans caméra parce que c'est plus facile, parce que je veux dire, quand on est policier, on travaille plutôt en sous-marin, on interpelle et puis c'est plus facile que quand il y a toutes les caméras partout là où ça fait un peu de buzz. J'ai toujours été un peu gêné par rapport à ça. Mais après, effectivement, on n'a pas assez d'effectifs pour garder le terrain. Parce que là, aujourd'hui, on va rester là 15 jours, 3 semaines. On fait le ménage, on redonne de la vie aux gens. Les gens sont contents, ils ressortent, ils ne voient plus de branleurs. Il faut le dire, les jeunes voyous, les JV, en bas des immeubles, en train de squatter. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle, les JV.
De la chance, il est tard.
Mais il est tard, oui. Les enfants dorment. Mais c'est ce qui agace les gens, en fait, parce qu'ils ont envie de vivre tranquillement. Et en fait, il y a toujours des gens en bas, des immeubles, qui justement se subtilisent à la République.
Et d'ailleurs, vous parliez de communication, le président de la République, qui lui est à Guyane, plaque tournante aussi de la drogue, comme chacun sait, tweet sur ce sujet il y a quelques minutes seulement, 880 interpellations et plus d'une tonne de cocaïne saisie, 100% contrôle à l'aéroport de Cayenne fonctionne, lutter contre les trafics illicites et renforcer la sécurité régionale, les résultats sont là, merci à nos forces qui veillent. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de ces sujets de trafic, de place nette, d'efforts policiers ou judiciaires, on repense à ces magistrats marseillais qui nous rappelaient encore il y a quelques jours que malheureusement la bataille était perdue de leur point de vue. 10 secondes parce que je rends l'antenne tout de suite.
Un magistrat, par exemple, un juge d'instruction, il a une centaine de dossiers à gérer. Un policier, un OPJ, il a entre 200 et 300 dossiers dans son portefeuille. Donc quand les magistrats veulent avoir les policiers à leur disposition pour continuer les affaires et faire des perquisitions, etc., les policiers sont sur d'autres missions. Donc en fait, il y a un problème, comme je vous disais, c'est qu'il n'y a pas de stratégie systémique. Voilà, c'est chacun y va de son côté, même si les procureurs discutent avec les commissaires, il faut une vraie stratégie. Et la bataille la guerre n'est pas terminée, la bataille continue.
Merci à tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Sophia Rousseau, Jules Vitet, Martin Mazur l'ont préparé. C'était un plaisir de vous retrouver pour ce début de semaine. On se retrouve bien sûr demain pour Soir Info, l'édition de la nuit avec Simon Guilin dans une poignée de secondes. À demain, bonne nuit.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.